Bonsoir à toutes et à tous. Un référendum pour inscrire la défense du climat dans la Constitution. Emmanuel Macron l'annonce ce soir face aux membres de la Convention citoyenne pour le climat qui réclament des lois fidèles à leurs propositions. Le chef de l'État répond à une partie de leurs propositions après 3 heures de débat, Stéphane Robert nous raconte. Une avancée pour les lois françaises mais un échec dans le monde sur un autre sujet environnemental, la surpêche. L'Organisation mondiale du commerce n'a pas arraché d'accord à la date butoir. L'association Bloom pour la protection des océans est l'invité de ce journal. Google s'enrhume et des milliards d'internautes tous, panne géante pour un géant du numérique, la preuve de notre dépendance, dit un spécialiste en cybersécurité. Et puis aux États-Unis, Sandra, infirmière, première américaine vaccinée contre le Covid-19. L'image est sur toutes les télévisions et suscite l'espoir. Sébastien Paour est à New York. Troisième rencontre de plus de 3 heures entre Emmanuel Macron et 132 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Nouveau débat alors que beaucoup de ces citoyens qui ont rendu des propositions pour lutter contre le réchauffement climatique craignent qu'elles soient vidées de leur substance par le gouvernement. Stéphane Robert, Emmanuel Macron a tenté de rassurer. Ce soir, il est surtout venu avec une annonce forte.
Emmanuel Macron ce soir a été interpellé de façon parfois un peu virulente. Par exemple, par Denis sur la rénovation énergétique des bâtiments. Il a sévèrement critiqué les 4,5 milliards d'euros par an qui y sont consacrés.
4,5 milliards d'euros, aujourd'hui c'est insuffisant. Corinne l'a rappelé, c'est 22 milliards qu'il faut, quasiment tous les ans, jusqu'en 2030. Je me pose une question. Êtes-vous climato-cynique au point de décider volontairement de ne pas atteindre ces objectifs en 2030 ? Ou climato-sceptique.
Le chef de l'État a répondu en essayant d'expliquer concrètement la décision qui a été prise.
J'attire votre attention. Le sujet, c'est de savoir comment derrière il y a des artisans qui sont formés, qui peuvent aller faire ces rénovations et comment il y a des gens qui vont chercher ces contrats. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que cette année on mettrait 22 milliards, on ne ferait pas 22 milliards de rénovations. Et déjà, je serais content si on en fait 4 milliards et demi.
Autre sujet que n'ont pas compris les citoyens de la Convention climat, le rejet du moratoire sur la 5G. Agnès Quatuor lui a demandé pourquoi il refusait ce délai de réflexion avant de la déployer.
Monsieur le Président, le déploiement de la 5G. 65% des Français demandent, comme nous, un moratoire sur son déploiement. Finalement, le rejet du moratoire sur la 5G ne serait-il pas votre quatrième joker ?
Là encore, Emmanuel Macron a tenté d'expliquer sa décision.
Moi, je suis pour la transparence complète. Je pense que ne pas lancer ce sujet aurait été une erreur, parce que ça nous coûtait des opportunités économiques à court terme qui n'étaient pas remplaçables.
Le chef de l'État a donc fait beaucoup de pédagogie ce soir face aux citoyens de la Convention climat, mais il a aussi fait des concessions. Il a notamment annoncé qu'un référendum se tiendra sur l'inscription de la clause environnementale à l'article 1er de la Constitution. Une fois que l'Assemblée nationale et le Sénat auront adopté le projet de loi constitutionnelle dans les mêmes termes, le référendum pourra se tenir et il aura lieu, a promis Emmanuel Macron.
Stéphane Robert au Conseil économique, social et environnemental de Paris. Un chef de l'État qui répond en partie aux demandes de la Convention pour le climat. Mais l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, échoue sur un enjeu majeur de l'environnement, la surpêche. L'OMC n'a pas réussi à conclure un accord pour réduire la surpêche d'ici la fin de l'année. Les discussions ont commencé pourtant il y a près de 20 ans avec un objectif: éliminer les subventions qui contribuent à la pêche illicite, non déclarée, non réglementée. Les membres de l'OMC invoquent la pandémie, le Covid-19 qui a mis un frein aux réunions. Ils promettent d'en reparler dès janvier 2021. Bonsoir Frédéric Lemanac.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur scientifique de l'association Bloom qui œuvre pour la protection des océans. Vous le prenez comment, cet échec des négociations sur la surpêche ?
C'est un très mauvais signal puisque, comme vous le disiez, ça fait maintenant 20 ans que l'OMC essaye de trouver un accord pour interdire cet argent public en fait, qui finance la surpêche et la destruction de l'océan. Et c'est vrai que c'est un désaveu cuisant d'obtenir un non-résultat alors que c'était vraiment la date butoir, le dernier espoir pour obtenir cet accord.
Mais vous, en tant qu'association pour la protection des océans, vous en attendez beaucoup de cet accord ?
Oui, on en attend beaucoup parce que l'OMC permet quand même d'avoir des accords contraignants au niveau international, ce qui n'est pas du tout le cas des Nations Unies, par exemple, qui formulent du droit mou, qui n'est pas contraignant. Donc on attendait vraiment de l'OMC d'avoir un accord contraignant qui demandait, qui exigeait aux États membres d'interdire ces subventions, puisqu'en fait, on voit très bien quand il n'y a pas de contraintes sur l'allocation des subventions, l'argent public est utilisé à très mauvais escient, c'est-à-dire qu'on va financer des nouveaux bateaux plus puissants, plus efficaces pour aller chercher le poisson, et c'est vraiment ça qui fait qu'on a effectivement 90% des populations de poissons au niveau mondial qui sont complètement exploitées à leur maximum ou même surexploitées partout dans le monde.
Alors pour qu'on comprenne bien, les subventions à la pêche concrètement, c'est quoi et qui en profite le plus ?
Alors une subvention, c'est un chèque ou une détaxe qui est octroyée par un gouvernement. Donc ça peut être par exemple pour payer le carburant moins cher ou ça peut être pour acheter un nouveau moteur ou construire un nouveau navire. Et en fait, selon l'utilisation des subventions, on a plusieurs catégories. Il y a des subventions qui sont plutôt bénéfiques, par exemple pour aller chercher des données scientifiques ou pour protéger une zone particulière, et des subventions qui sont très négatives, très néfastes, comme par exemple celle pour construire de nouveaux navires, puisque ça crée ce qu'on appelle de la surcapacité de pêche, c'est-à-dire un effort technologique trop important pour aller pêcher le poisson. Et le problème, c'est que la majeure partie des subventions allouées au niveau mondial, c'est de la subvention néfaste, c'est-à-dire qui crée une surcapacité de pêche, et c'est aussi majoritairement la pêche industrielle qui capte ces subventions, puisqu'au niveau mondial, on a à peu près 60% de subventions néfastes, dont 80% qui vont à la pêche industrielle. Donc c'est vraiment les industriels des pays développés avec des flottes de pêche destructrices qui sont les grands bénéficiaires de ces subventions-là. C'est vraiment un signal catastrophique quand on voit le changement climatique qui nous arrive très très rapidement dans la figure et quand on voit l'érosion de la biodiversité. Et les scientifiques continuent jour après jour de tirer la sonnette d'alarme.
C'est quoi la situation des océans aujourd'hui ?
Alors, la situation, elle s'est un petit peu améliorée ces dernières années en Europe, puisqu'on a, par exemple, interdit en 2004 les subventions pour construire des nouveaux navires. Donc, on a réussi à contraindre la flotte de pêche à diminuer un petit peu en capacité de pêche. On a aussi, notamment grâce au travail de l'association Bloom, à faire interdire certaines méthodes de pêche destructrices, comme par exemple le chalutage en eau profonde ou la pêche électrique. Donc, on voit en Europe et ailleurs dans le monde des signes positifs. Le problème, c'est que là, notamment l'Union européenne joue un très très mauvais rôle, et c'est entre autres pour ça que les négociations à l'OMC ont échoué, puisque l'Europe a décidé, après 16 ans, de réintroduire ses subventions à la construction. Donc l'état de santé de l'océan aujourd'hui, il s'améliore par endroits, mais on voit quand même que année après année, on a de plus en plus de populations de poissons qui sont surexploitées, on a des écosystèmes marins qui sont de plus en plus soumis à l'impact des humains, que ce soit avec la bétonisation des côtes, que ce soit avec la pollution, que ce soit avec la destruction de l'habitat. Donc c'est vrai que la situation n'est malheureusement pas très jolie à voir.
Le président du groupe de négociation à l'OMC aujourd'hui a dit être convaincu de pouvoir parvenir à un accord dans un avenir proche, donc en 2021. Est-ce que vous y croyez ?
On espère en tout cas que cet échec en 2020 ne signe pas l'arrêt de mort des négociations sur l'interdiction des subventions à la pêche. Donc on espère évidemment qu'en 2021, l'OMC arrivera à trouver un accord. Et il faudrait que cet accord, en revanche, soit vraiment fort et contraignant. Et ensuite, il y aura encore malheureusement l'application de cet accord-là qui sera à suivre vraiment de très près au niveau national.
Parce que l'échec de cet accord à l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Que l'instance est obsolète ou que la surpêche doit être gérée à d'autres niveaux ?
Alors, c'est effectivement un mauvais signal pour l'OMC, puisque beaucoup d'observateurs internationaux disent que 20 ans pour aboutir à un non-accord, c'est clairement une échelle de temps et des ambitions qui ne sont pas du tout d'équerre avec les enjeux que l'OMC doit gérer. Donc, c'est certain que beaucoup de gens voyaient un petit peu les négociations sur les subventions à la pêche comme la dernière chance de l'OMC de survivre. Donc nous, on ne peut pas prétendre savoir ce que l'OMC va donner, mais c'est certain que c'est un coup d'arrêt à l'ambition que l'OMC s'était fixée.
Merci beaucoup Frédéric Lemanac d'avoir répondu à l'invitation de France Culture. Vous êtes le directeur scientifique de l'association Bloom qui œuvre pour la protection des océans. Plusieurs milliers de restaurateurs, hôteliers, patrons de discothèques dans la rue aujourd'hui pour demander la réouverture de leurs établissements. Demain, c'est au tour du monde de la culture de crier sa colère. Manifestation prévue dans une quinzaine de villes en France. Le déconfinement demain qui laisse place à un couvre-feu de 20h à 6h du matin. 3000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, dit Santé publique France, en baisse. Ce sera d'ailleurs demain que seront comptabilisés les premiers tests des habitants du Havre ou de Charleville-Mézières. Début de la campagne de tests massifs, 2000 personnes en ont profité au Havre aujourd'hui. 3 mois et demi après l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015, la Cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer. Le verdict est attendu mercredi. Sur le banc des accusés, 14 personnes soupçonnées d'avoir aidé les terroristes lors des attaques contre Charlie Hebdo, l'hypercachère de la porte de Vincennes et contre une policière municipale à Montrouge. Florence Turm, en ce dernier jour d'audience, la défense et les accusés ont pu prendre la parole une dernière fois.
Le premier, Christophe Rommel, s'approche de la barre. Il est le seul à comparaître libre et ses derniers mots seront pour les victimes. J'ai vu des images choquantes, des témoignages bouleversants et j'ai vraiment honte de me retrouver dans ce dossier. Compassion pour les familles de victimes, ils l'ont presque tous dit à leur manière, certains même au bord des larmes, comme Michael Nézard-Pasteur Alouatique. J'espère que vous trouverez le repos. Mais j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, ajoute-t-il. Et il s'adresse à la cour. Faut me croire si je dis que je n'ai rien à voir avec ça. Après, leurs avocats qui ont tous ou presque que plaider l'acquittement, les 11 hommes répètent qu'ils sont innocents. Certains affirment leur confiance en la justice, d'autres leur colère. Ali Riza Polat, contre qui l'accusation a requis la réclusion à perpétuité, se lance dans un interminable discours à l'image de ceux qu'il a pu tenir lors du procès. Le président finit par l'interrompre. J'ai malgré tout l'impression d'avoir été entendu et compris, lâche Miguel Martinez. Il confie avoir pu échanger avec une victime. Ça m'a fait du bien. La cour se retire pour délibérer, la salle se vide et Sigolène Vincent, l'une des survivantes de Charlie Hebdo, s'approche du box avec Hélène Honoré, la fille du dessinateur abattu par les frères Kouachi. Elles ne diront rien de cet échange, si ce n'est en substance ce qu'elles attendent depuis le début du procès, une justice qui rende le droit et non pas la vengeance.
Florence Turm. Google en panne et des millions d'internautes bloqués partout dans le monde. Gmail, Google Maps, mais aussi YouTube, tous ces outils devenus essentiels à notre quotidien et à notre travail, ont cessé de fonctionner dans l'heure de midi en France. Cette panne des plus massives ces dernières années, qui n'est sûrement pas liée à une cyberattaque, montre à quel point nous en sommes dépendants de ces outils, explique Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité.
Ça a pointé du doigt la dépendance à la multitude des outils. Derrière le moteur de recherche bien connu, vous avez également la messagerie, vous avez Google Home, c'est-à-dire la maison connectée qui permet de piloter l'éclairage, les caméras de la maison, le thermostat, les enceintes musicales. Vous avez des entreprises également qui ont mis une partie de leur activité sur des messageries, sur des systèmes de stockage de fichiers, de production de documents professionnels. Et donc on voit bien que effectivement, dès lors que cette entité est défaillante, ça pose la question de la continuité de l'activité et de la disponibilité de l'information. C'est un des vrais enjeux, d'où la question de la diversité dans les fournisseurs, de manière à ne pas être dépendant de la disponibilité de l'un d'entre eux.
Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité, auteur de la cybersécurité aux presses universitaires de France. Alors que les États-Unis viennent de franchir la barre des 300 000 morts liés au Covid-19, elle est devenue le symbole d'espoir. Une infirmière new-yorkaise, première américaine vaccinée contre le Covid-19, avec l'antidote des laboratoires Pfizer-BioNTech, Sébastien Paour.
C'est le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui présente l'infirmière qui va recevoir la première dose de vaccin. Sandra Lanzi, première vaccinée dans l'État de New York et peut-être, dit-il, aux États-Unis. Elle est infirmière au Jewish Medical Center de Long Island, dans le Queens, en première ligne depuis le début de la pandémie. Elle est assise dans sa tenue de travail, blanche et bleue, masquée, et elle est piquée par le docteur Chester. Les photographes mitraillent. On applaudit. Sandra n'a rien senti, comme n'importe quel vaccin, dit-elle. Et elle s'adresse à tous ses collègues soignants. Je voudrais remercier toutes les personnes en première ligne. Tous mes collègues qui luttent pour combattre cette pandémie partout dans le monde. Je me sens pleine d'espoir aujourd'hui. J'espère que c'est le début de la fin d'une période très douloureuse de notre histoire. Elle dit encore qu'on voit la lumière au bout du tunnel, mais qu'il faut continuer les gestes barrières et se faire vacciner comme elle. Le vaccin ne fonctionne que si les Américains le reçoivent, résume le gouverneur. D'après les sondages ici, un Américain sur deux ne sait pas s'il se fera vacciner.
Sébastien Paour depuis New York pour France Culture. Le Canada lui a aussi lancé une vaccination géante aujourd'hui. Pendant ce temps-là, en Europe, l'inquiétude grandit. À Londres, dans certaines régions du sud-est du Royaume-Uni, hôtels, pubs et restaurants seront fermés dès mercredi. Les Pays-Bas se reconfinent pour 5 semaines. Et la Bavière en Allemagne entre dans un confinement partiel dès mercredi. Le temps demain sera légèrement pluvieux et doux pour la saison. Attention au risque de crues en Gironde et dans les Landes, vigilance orange de Météo France. Il neige vers 1800 mètres sur les Pyrénées et les Alpes. Les températures maximales sont comprises entre 9 et 13 degrés, localement 14 à 15 en Aquitaine et près de la Méditerranée. Il fera jusqu'à 18 degrés en Corse. Ce journal a été réalisé avec l'aide de Nathalie Lopez et Annie Brault et à la technique Audrey Guélil.